RCF.
Dernière émission aujourd'hui avec vous, Don Guillaume. Je rappelle que vous êtes moine, vous êtes frère cistercien de la stricte observance. Vous êtes l'auteur du livre « Ta lumière sur ma route », un livre consacré à la règle de Saint-Benoît et publié aux éditions Salvator. Alors, cette règle de Saint-Benoît, c'est 73 chapitres qui semblent avoir été écrits pour aujourd'hui, pour aller vers ce qui nous rend heureux. Et cette règle, elle rentre vraiment dans le détail de notre quotidien. Alors par exemple, avec quelques conseils pour recevoir des hôtes. Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ, car lui-même doit dire un jour « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez reçu ». C'est quelque chose qui vraiment vous préoccupe, ou en tout cas sur lequel vous êtes très vigilant au quotidien, recevoir celui qui vient. Et par quoi ça se traduit ?
Oui, c'est très important dans les communautés monastiques. D'ailleurs, les communautés, pendant le Covid, donc pendant le confinement, ont vécu ce manque des hôtes, cette absence des hôtes comme un manque. Parce que c'est vrai que les hôtes qui viennent nous apportent quelque chose, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ils apportent toujours leurs questions, l'épaisseur de leur existence, la beauté aussi de leur vie. Et c'est, pour nous, c'est très important.
Il y a aussi un chapitre sur les vêtements, les chaussures des frères. Lorsque l'on en recevra de neuf, on rendra toujours et immédiatement les vieux qui seront déposés au vestiaire pour les pauvres. Vous faites toujours ça ?
On ne donne plus maintenant les choses usées, on leur donne des neuves. Mais cette idée, si vous voulez, qu'on n'accumule pas. C'est quelque chose de très important. Je crois que dans ce chapitre de la règle, c'est plutôt ce rapport respectueux aux choses. Il y a dans la règle de Saint-Benoît une espèce de respect pour le concret. Vous voyez, il y a une vision très différente de la pauvreté dans la règle de Saint-Benoît par rapport à l'époque de Saint-François d'Assise, et dans cette manière de percevoir les choses.
On est au VIe siècle, là.
Oui, tandis que Saint-François, c'est le XIIIe, au moment de la naissance du capitalisme, et donc du capitalisme marchand. Et en fait, à l'époque de Saint-Benoît, la pauvreté, ça n'est pas de ne pas avoir de choses. La pauvreté, c'est de respecter les choses, c'est très écologique, d'une certaine manière, et de les partager avec les autres. Donc de ne pas accaparer les choses.
Ne pas posséder, ça c'est dit
pour
aussi
soi,
dans la règle,
oui,
pour soi, ne
pour
pas
soi,
posséder pour soi.
Pour soi. Tandis qu'avec Saint-François, c'est la... Donc si vous voulez, ce qui est important dans la règle de Saint-Benoît, autour des choses, c'est l'aspect relationnel. Une chose ne doit pas briser la relation que j'ai avec les autres. Elle ne doit pas m'empêcher d'entrer en relation. C'est pour ça que Saint-Benoît insiste beaucoup sur le fait qu'avoir des choses, il faut les demander et les recevoir.
On doit être dépendant, avoir besoin de l'autre.
C'est-à-dire, si vous voulez, c'est ne jamais nier l'aspect relationnel des choses. Parce qu'au fond, posséder des choses, c'est se dispenser d'une relation. On n'a plus besoin de demander. On peut donner, mais on n'a plus besoin de demander. Et donc, je crois que, si vous voulez, en fait, Saint-Benoît centre vraiment la vision de la pauvreté sur le partage. C'est lié d'ailleurs à la vision de la première communauté de Jérusalem. Tout était commun à tous et on donnait à chacun selon ses besoins. C'est vraiment central dans la règle de Saint-Benoît. Au XIIIe siècle, Saint-François va changer la perspective. C'est-à-dire, c'est plus le partage qui est important, c'est le fait, ce sont les choses elles-mêmes qui se deviennent centrales. Il ne faut pas posséder ces choses. Alors que pour nous, en fait, on les possède ensemble. Donc les choses ne sont pas du tout vues comme quelque chose de négatif. C'est pour ça que je pense que la règle de Saint-Benoît a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, parce qu'en fait, elle met l'accent sur le bien commun.
Sur le durable aussi.
Oui, sur le durable, mais aussi sur le fait que les choses ne sont pas là pour diviser les hommes, mais pour les aider à vivre ensemble.
Et alors sur ce lien, c'est aussi le lien aux frères malades. Là, on est au chapitre 36. On prendra soin des malades avant tout et par-dessus tout. On les servira comme s'ils étaient le Christ en personne, puisqu'il a dit « J'ai été malade et vous m'avez visité ». Donc là, on retrouve vraiment ce lien important entre les frères, y compris avec ceux qui sont malades.
Oui, parce que ce qui est central dans la règle, c'est la valeur de la personne. Et ce qui donne la valeur à la personne, ce n'est pas ce qu'elle fait, ce n'est pas sa compétence, ce n'est pas sa responsabilité dans la communauté, c'est le fait qu'à un moment, Dieu l'a choisi. Et c'est ça qui fait toute la valeur d'un homme.
C'est aussi la patience qu'il va pouvoir exercer avec les autres. C'est dur la patience avec les autres, parfois.
Oui, et puis je pense que l'impatience peut nous aider parfois à prendre conscience qu'on n'est pas tout à fait vertueux. Si vous voulez, la colère, tous ces mouvements intérieurs, hein, sont des choses dont il faut avoir conscience et il faut pouvoir rire de soi. C'est très important de ne pas avoir peur de soi. Je crois qu'on vit dans un monde où on voudrait formater les gens avec une image un peu perfectionniste, hein, une espèce de technique de la personnalité, où au fond, l'homme parfait, c'est celui qui devrait réagir comme ça, etc.
Et si on est en train de mettre d'autres codes, en fait, des petites règles.
Moi, je trouve qu'au fond, aujourd'hui, si vous voulez, la pression sociale des codes sociaux est infiniment plus forte qu'elle ne l'a été dans les siècles précédents, parce que c'est une espèce de pression qui est intériorisée. En fait, les gens se sentent obligés de correspondre à des modèles. Et c'est justement ce qui est très libérateur dans la vie monastique, c'est qu'on prend conscience qu'on n'en a pas envie, qu'on râle, on n'est pas content, etc. Et qu'on se réconcilie avec ça, avec cette humanité profonde. Et donc, on peut la convertir. Mais en fait, tant qu'on la modifie artificiellement par des règles, des codes, etc., de l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de penser certaines choses. Hein. Sinon, la presse vous tombe dessus, ou la loi.
Ou les associations.
Ou les associations, etc. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une espèce d'inquisition à l'état latent qui est rampante partout dans la société. C'est vraiment curieux. L'Église l'a abandonné et la société l'a reprise. Mais les gens sont très contents de ça. C'est ce qui m'étonne toujours. Cette espèce d'esclavage consenti et cette espèce d'incapacité de penser par soi-même. C'est très inquiétant, je trouve. Et c'est là où la vie monastique peut être libératrice. Parce qu'au fond, on ne pense pas comme les autres. Bon, puis on s'en fout.
Vous parliez du rire, je voudrais m'arrêter sur deux phrases qui sont assez étonnantes et qui sont celles de Saint Benoît. Dans sa règle, ne pas dire de paroles vaines ou qui portent à rire, et ne pas aimer rire beaucoup ni aux éclats. Je vous ai vu rire aux éclats, alors.
Oui, oui. Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé à ce degré de perfection. Tant mieux.
Pourquoi non, cette règle?
En fait, si vous voulez, je crois que Saint Benoît avait constaté que le rire, ça se déclenche souvent aux dépens d'autrui. En fait, si vous voulez, très souvent, hein, dans le rire.
Le sarcasme plutôt, alors.
Oui, mais le rire enfantin, c'est très rare quand même dans la société. La plupart du temps, on se fout des gens, hein, on s'en moque, ou bien on caricature les traits de quelqu'un pour s'en moquer. Dès qu'on est deux à parler dans un lieu, et on constate ça dans la vie monastique très vite, hein, c'est que très vite, on a besoin de dire du mal de quelqu'un et d'en rire. Je pense que c'est vrai partout, hein, malheureusement. Et donc, si vous voulez, Saint Benoît nous rappelle ça, c'est-à-dire que souvent, notre rire n'est pas un rire bienveillant.
Enfantin, vous le disiez.
Vous voyez, un rire cristallin, je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, ce rire bienveillant des enfants qui rient simplement parce qu'ils sont contents. Hein. Et les enfants ne se moquent pas, les petits au moins. Après, au bout d'un certain temps, ça change.
Et puis, on va terminer avec les retardataires parce qu'il y a aussi ce chapitre. Je ne vais pas dire que vous êtes arrivé en retard pour l'interview. Pourquoi s'arrête-t-il à ce point sur le retard en disant que celui qui arriverait en retard à l'office, il a sa place au sein de la chapelle. On verra qu'il a été en retard pour qu'il se corrige, je cite, sous l'effet de la honte. Alors, pourquoi cette discipline? Est-ce que c'est pour parvenir à un bon déroulement de la vie communautaire ou est-ce que ça va au-delà de ça?
Non, c'est pas du tout pour le fonctionnement. Bien sûr, ça peut être utile pour ça, mais fondamentalement, la vie monastique, c'est un espace-temps. C'est-à-dire que c'est une manière différente de concevoir l'espace géographiquement. Donc il y a des lieux qui sont particuliers. On voit très bien dans la règle que Saint Benoît définit les lieux avec leurs fonctions. Et puis un espace-temps, parce qu'il y a un rythme dans la vie monastique qui est très particulier, hein, qui est un rythme de vie avec des alternances entre des choses. Et quand le rythme est rompu, ça veut dire que quelque part, on modifie l'espace-temps. On donne plus d'importance à une chose qu'à une autre. Et donc, en fait, c'est un peu comme un rythme de respiration. En fait, Saint Benoît veut dire par là que quand on arrive en retard, bon, ça peut arriver hein, de temps en temps, comme quand on rate un métro, par exemple. Mais en fait, ce que veut dire Saint Benoît, c'est surtout qu'il y a des gens qui expriment dans la vie monastique concrète, hein, par le retard, quelque chose. Et c'est de cette manière de ne pas entrer dans cet autre espace-temps qu'ils expriment un malaise plus profond. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe.
C'est aussi accepter en fait un rythme qui n'est pas le sien, qui est un rythme des autres, qui peut être le rythme de la communauté, mais qui peut être parfois le rythme de celui qu'on va rencontrer. Au-delà de ça, accepter un rythme qui nous serait donné par Dieu.
La vie monastique, c'est, comme je disais, un espace-temps, une respiration, l'existence, une manière de vivre le temps.
Donc en acceptant l'horaire, on accepte le reste, en fait. C'est ça que vous semblez dire.
C'est-à-dire, je crois que le fait du retard, ou bien il y a des gens qui sont systématiquement en retard, par exemple, ça veut dire quelque chose, et c'est important, je crois. C'est-à-dire, vous voyez, le grand problème qu'on a, c'est que parfois, on peut penser que quelqu'un qui est dans les clous va bien, hein, puisqu'il vit bien, donc il vit les rythmes, donc il va bien. Et je pense qu'il y a toujours des petits détails comme ça dans l'existence, dans la vie monastique, qui sont comme le symptôme d'autre chose. Alors le problème, c'est pas de reprocher cela, c'est de faire prendre conscience et d'entrer dans cette... Qu'est-ce qui se passe ? Essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que là, quand Saint Benoît parle de mettre la personne en avant pour qu'elle ait honte, la honte, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise de conscience de quelque chose, en fait, d'un dysfonctionnement. Et c'est toujours intéressant. Je parlais tout à l'heure de rater une marche d'escalier, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on prend conscience, tiens, j'étais distrait et j'ai raté une marche. Hein. Ça m'arrive assez souvent, donc je peux le dire. Et vraiment, c'est intéressant parce que ça veut dire, je ne suis pas présent. Il y a une espèce de... Donc c'est une remise en cause de moi-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve.
Alors, en entendant ce que vous dites, que c'est des points auxquels vous avez été attentif en tant qu'abbé. Vous avez été abbé du Mont des Caves. Vous êtes aujourd'hui frère en Toscane. Merci beaucoup, Don Guillaume, pour ce commentaire de la règle de Saint-Benoît. Ta lumière sur ma route aux éditions Salvator. Merci beaucoup.